Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil. C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne.
Bonsoir à tous, comme chaque lundi à 20h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Bergerac 95.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au menu de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, on va consacrer la première partie de cette émission à nos coups de cœur télé de la semaine et nos invités. On va commencer par parler de Sam, qui tire sa révérence ce soir sur TF1. La saison 3 se termine et nous serons avec les productrices Isabelle Dron et Aline Besson qui seront avec nous pour nous dévoiler peut-être déjà quelques petits scoops de la saison 4 qui se prépare en coulisses. Nous reparlerons également de la série Zone Blanche. À cette occasion, nous recevrons le producteur associé de la série, Pierre-Emmanuel Florent, mais également François Hitter de France 2, initiateur du projet, et Hubert Delattre alias Nounours. Et puis on continuera à dérouler nos coups de cœur également cette semaine avec Théo Bertrand à l'affiche de Plus belle la vie tous les soirs sur France 3. Et bien vous le verrez aussi dans un épisode de Léo Mattei, ce sera jeudi sur TF1. Et enfin samedi, un nouvel épisode inédit de Cassandre, la série qui cartonne sur France 3. Et bien nous en parlerons avec son héroïne Gwendoline Amon qui sera également avec nous tout à l'heure. Et puis deuxième partie de cette émission consacrée au festival Escale d'humour qui se déroule à Royan tout au long de cette semaine. Nous allons recevoir celui qui sera à l'affiche d'Escale d'humour justement demain, ça sera Gilles Alma qui sera avec nous tout à l'heure. On recevra également celle qui sera à l'affiche jeudi, c'est Elodie Pou. Et puis celle qui était à l'affiche ce week-end, c'était Anne Roumanoff qui a ouvert cette édition. Elle sera avec nous pour nous parler de ses projets. On vous dévoilera également toutes ses dates de spectacle dans notre région de la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous l'avez vu, le maire de Royan viendra également donner le mot de la fin de ce festival. C'est donc un programme chargé qui nous attend. On va commencer, si vous le voulez bien, comme d'habitude, par les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on démarre tout de suite donc avec les audiences de lundi dernier. Il y avait Sam sur TF1 qui arrive en tête des audiences avec 3 807 000 téléspectateurs pour 18,5% de part de marché. C'est un bon score pour Marier au premier regard sur M6, 11,8% de part de marché pour 2 414 000 téléspectateurs. Déception pour France 2 avec 9% de part de marché. Zone Blanche peine à attirer 1 927 000 téléspectateurs. Et puis mardi, il y avait la stagiaire qui était de retour sur France 3, c'est 17,9% de téléspectateurs et 4 068 000 téléspectateurs, mais soit sur TF1 n'est pas loin avec 4 056 000 et 18% du public. Documentaire également sur France 2, la France de l'entre-deux-guerres a bien fonctionné avec 2 791 000 fidèles et 12,3% de part de marché. Mercredi sur TF1, il y avait Esprit criminel en tête, 3 585 000 téléspectateurs, 16,6% de part de marché. Top Chef arrive sur M6 deuxième avec 2 858 000 et 15,1% de part de marché. Et la soirée Ma mère, le crabe et moi sur France 2, déception également avec moins de 10% de part de marché et 1 643 000 téléspectateurs. Et les victoires de la musique classique sur France 3 n'ont attiré qu'un 1 148 000 personnes. Jeudi sur TF1, il y avait Léo Mattei, 4 451 000 téléspectateurs ont suivi le retour de la série avec 23,4% de part de marché. En deuxième position, CM6, recherche appartement ou maison, avec 2 428 000. Et puis, il y avait le Palma Show qui débarquait sur TF1 vendredi. C'est un beau score. 4 115 000 téléspectateurs, 19,6% de part de marché. Shérif est pas loin derrière, avec 3 624 000 et 16,1% de part de marché. Et puis, NCIS sur M6 s'en tire bien, avec 2 975 000. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière. Et on va tout de suite passer donc à nos coups de cœur et nos premiers invités, les productrices de la série Sam.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va continuer à parler de Sam depuis maintenant bientôt un mois. Eh bien, on explore les personnages, la réalisation, les comédiens sont venus. Eh bien, il nous manquait le regard des productrices pour ce grand final qui aura lieu ce soir à partir de 21h10 sur TF1 avec Aline Besson et Isabelle Dron qui sont avec nous. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors voilà, on a vu un petit peu tout ce qui s'est passé sur les 6 premiers épisodes avec cette intrigue développée autour de la maladie de Sam. Aujourd'hui, qui c'est qui a eu l'idée de créer déjà ce personnage à la base de Genèse de Sam?
Ce serait intéressant d'avoir le regard justement des productrices. Isabelle, Aline, laquelle des deux s'y frotte ?
Si vous voulez, je vous réponds. Donc, je suis Aline. Bah, c'est nous, hein, les productrices. Pour être tout à fait honnête, on s'est appuyé sur un personnage qui avait été dessiné par des Danois dans une série qui s'appelle Rita et dont la caractéristique principale qui était d'être une rebelle, tout en étant une prof formidable puisque aimer des élèves nous paraissait être le bon angle pour parler du collège. On a développé ensuite ce personnage pour qu'elle soit française, ancrée dans notre époque et dans notre réalité française et de la situation qu'on connaît ici de l'école, qui est pas du tout la même qu'en Scandinavie. Et voilà, c'est devenu une série totalement française, qui est donc une série character driven, c'est-à-dire où c'est vraiment le personnage qui porte les intrigues, enfin qui crée presque les intrigues.
En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Isabelle, c'était la volonté dès le départ de créer justement une prof qu'aujourd'hui tous les élèves rêveraient d'avoir, mais évidemment qui est un peu le cauchemar des parents finalement.
Oui, notre idée en fait, avant même de découvrir la série danoise, c'était de se dire, on avait envie de parler des profs et de l'école, et ce qui nous intéressait comme angle, c'était de se dire que finalement les profs sont d'anciens élèves qui n'ont jamais vraiment quitté l'école. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a trouvé dans ce personnage, donc à l'origine danoise de Rita, qui était d'être resté adolescent. Et la caractéristique de l'adolescent, c'est justement de dire tout haut ce que personne n'ose dire, de faire les choses que les autres adultes n'osent pas faire. Et c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, d'ailleurs, dans la saison 3, où le nouveau CPE incarné donc par Issa Doumbia lui dit « Mais pourquoi est-ce qu'aucun adulte ne vous aime ?» Et voilà, c'est toute sa manière d'agir qui est absolument pas adulte.
On n'est pas sur une intrigue en fait, on est sur un personnage, donc on voudra le suivre jusqu'au bout. Et c'est vrai, le milieu dans lequel ça se passe, qui est l'école, et c'est, vous parliez de l'arrivée d'Issa Doumbia, etc., là encore, c'est une logique naturelle et intrinsèque à ce qu'on raconte, c'est que l'école, chaque année, il y a des nouveaux profs qui arrivent, il y en a qui partent, etc. Et si on veut être dans un truc réaliste, on fait ça. Donc, du coup, c'est indéfini et des élèves, chaque année, il y en a des nouveaux et à chaque fois, ils amènent avec eux leur lot de problèmes, leur lot d'histoires. Donc, voilà, c'est un concept vraiment, on peut dire, récurrent, là, pour le coup.
La parole est faite belle aussi aux enfants durant cette saison. On avait vu déjà la saison dernière Roxane, le personnage de Roxane qui retrouvait son papa, son vrai papa. Là, c'est pareil dans cette saison. On a vu déjà sur les 6 premiers, mais voilà, la part belle est faite aussi vraiment au quotidien de Sam, pas uniquement dans son travail, mais aussi dans le privé, Isabelle. Hein.
C'est-à-dire que c'est un peu la série et fonctionne comme ça. On a une partie Sam, prof à l'école avec ses élèves, les parents de ses élèves et puis surtout tous ses collègues, puis on a quand même toute la partie de sa vie privée qui est elle plus feuilletonnante forcément qu'on suit et qui est aussi donc précisément peut durer jusqu'à ce que très longtemps. Inévitablement, là, on découvre maintenant le deuxième papa dans cette saison-ci. Moi, je crois qu'après, il y a que deux pères sur les 3 enfants, donc on va s'arrêter là.
Oui, après, pour un personnage féminin, ça sera difficile de lui mettre des enfants cachés. en tout cas, là, c'est bien parce qu'en plus, la saison va avoir plus le temps de se développer. Vous avez dû avoir plus le temps de développer l'histoire, parce qu'on est sur 8 fois 52 minutes au lieu de 6. Donc voilà, ça permet aujourd'hui, d'avoir 20 épisodes sur cette série. On espère, en tout cas pour vous, qu'elle va continuer encore longtemps et pour nous aussi. Merci Aline et merci Isabelle.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et ne ratez pas, le final de Sam, c'est ce soir et c'est à 21h10 sur TF1.
Salut! Qu'est-ce que vous faites là?
Mais écoute, Gus a la varicelle.
Oh merde!
Donc, comme Juliette l'a jamais eu et qu'elle a ses examens en ce moment, on s'est dit que on pourrait venir passer quelques jours ici entre mecs, quoi. Ça t'embête pas?
Oh, jamais l'œil.
Mouah!
Bonjour quand même.
Salut, mon chéri. C'est ma nickel. Oh, mouah!
C'est quoi, un jour après, t'aurais pu être là pour mon anniversaire?
Eh ouais. Bon, moi j'ai eu une urgence au collège cette nuit.
C'est pas qu'elle était sexy, ton urgence. En tout cas, t'es douée pour les surprises.
Votre père était là.
Oui.
J'y crois.
C'est bien, un anniversaire en 20 ans, c'est super.
Allez, coup de cœur télé cette semaine consacré à Zone Blanche. La semaine dernière, nous avions le producteur de la série. On va continuer à en parler. Vous avez découvert, évidemment, que Lorraine n'est pas morte lundi dernier. Eh bien, on va continuer à en parler cette semaine avec Hubert Delattre, qui joue le rôle de Nounours, qui est avec nous pour le lancement il y a 2 ans de Zone Blanche. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. François Hitter également, qui est conseiller des programmes, qui s'occupe de Zone Blanche à France 2.
Absolument, depuis sa naissance. Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et Pierre-Emmanuel Florentin, qui est producteur associé de la série. Bonjour Pierre-Emmanuel.
Bonjour.
Comment à France 2, on a accepté cette série? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a décidé à y aller?
Alors d'abord, on avait à France 2 envie depuis longtemps de bouger les lignes du polar traditionnel. On avait envie de western, et ce désir, il a rencontré celui des créateurs, de Mathieu Missoff et du producteur Vincent Mouluquet. Dès lors, il y avait un pari de création hyper sympathique à faire, qui était de proposer un voyage inattendu, un ailleurs, un petit coin de France assez spécial, assez étrange, enclavé dans la forêt, majestueuse, dangereuse, et avec un taux de criminalité 6 fois la moyenne nationale. Dès lors, s'est imposé très vite le personnage de Lorraine, shérif, femme au trauma originel extrêmement puissant, qui veille sur sa communauté et qui veille avec sa brigade, et notamment son frère de cœur, Nounours, avec qui elle partage tant, et avec qui elle va, en tout cas dans cette saison 2, et ça c'est important, se livrer davantage sur les secrets de son passé.
Alors elle va partir à la recherche de cet être mystérieux dans la forêt. Villefranche, on le disait il y a 2 ans, Hubert, c'est vraiment l'endroit où on n'aimerait pas habiter, je crois, hein, ni les uns ni les autres, mais qui nous attire tous en fait, de par son mystère.
Ouais, et puis je crois que les gens commencent à vouloir y habiter. En fait, ça qui est bien au final. Hein, non, mais c'est vrai.
C'est ça le pari réussi.
C'est ça le pari, et ça marche vraiment. Cette communauté là, elle existe vraiment déjà maintenant. Et puis il y a plein de charme. Il y a pas que de la peur. Donc après, il faut être un peu armé pour aller habiter là-bas. Mais je crois que il fait bon vivre quand même. Et comment... bon mourir aussi.
Comment, Pierre-Emmanuel, on crée justement une série comme ça avec un univers particulier, une image particulière? Parce que c'est aussi ça, Zone Blanche, c'est une image vraiment particulière, un travail effectué dessus qui est absolument hallucinant et salué par la critique unanimement.
Bah déjà, il y a un travail énorme artistique entre la production, les réalisateurs, le créateur Mathieu Missoff aussi de la série. Et puis après, c'est beaucoup de moyens aussi. Voilà, c'est une série qui est ambitieuse, c'est une série qui pousse les lignes, c'est une série où on se permet beaucoup de choses. Et puis il y a cette patte aussi de la lumière qu'on est allé chercher avec des chefs-op flamands qui ont apporté une vraie patte à eux, quelque chose qui tranche un petit peu dans la série française aussi. Qui est...
On pourrait se croire dans une série norvégienne ou voilà, justement, de... oui, effectivement.
Bah, l'idée, c'était d'élever les standards de la série à un niveau international, vraiment qu'on n'ait pas de dissociation. On fait de la série comme on a envie de la voir, et aujourd'hui, voilà, on a envie de voir une série qui a ses ambitions artistiques, où effectivement on peut pousser tous ces curseurs, oser de prendre le temps aussi de faire une lumière stylisée, et c'est ça qu'on permet, et avec aussi des réalisateurs qui ont beaucoup de talent.
On peut saluer le travail du directeur de la photographie, à mon avis, sur le film qui a été exceptionnel. François, on lance une série comme ça, c'est un peu un ovni au départ. Je ne sais pas si tout le monde y croyait à France 2, si l'équipe croyait au succès, mais est-ce qu'on pouvait imaginer un succès pareil? Parce que là, l'audience a été plus qu'au rendez-vous.
Écoutez, moi je dirais que moi j'y ai cru depuis le début. Et que derrière tout un nombre de personnes dans la chaîne, et que c'est vrai que ça a été une véritable aventure humaine, dans la mesure où on savait que tout le monde qui s'est agrégé petit à petit sur la série a vraiment donné son meilleur. On parle des scénaristes, Mathieu a eu des camarades de jeu, bah on connaît notre prix du jeune espoir d'il y a 2 ans, Hubert Delattre, qui est avec nous. Et c'est vrai que la dimension hypnotique, la dimension où la nature est souveraine, dangereuse, a vraiment accroché le public. Et que c'est vrai que la forêt est aussi un des autres grands personnages principaux de cette série.
C'est une série, effectivement, alors on n'est pas forcément pour le retour de la pub, hein, sur France 2, mais des fois, entre 2 épisodes, on aurait besoin, parce que même pour aller faire pipi, on n'arrive pas à décrocher. Quand on est hypnotisé dans notre canapé devant Zone Blanche, on ne peut pas arriver à s'en aller ne serait-ce que 30 secondes.
C'est le plus beau compliment que vous puissiez nous faire, puisque ça veut dire que collectivement, on a bien fait notre travail.
Alors comment a réagi Nounours, évidemment, pendant que Lorraine était vivante, ça on l'a vu la semaine dernière dans les 2 premiers. Comment vont évoluer ces rapports entre deux dans les futurs épisodes ?
Alors, sans spoiler, c'est toujours le même problème, il ne faut pas trop raconter. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport à la saison, la première saison, si Nounours avait tendance à quand même, au final, toujours aller dans son sens, même s'il n'y croyait pas trop ou s'il avait un peu des réserves, là, ça va être plus frontal. Donc, il va avoir quelque chose de plus... Ça va être un peu plus compliqué, leur rapport. Mais au final... Enfin, non, je ne peux pas raconter. Non, en fait, je ne peux rien dire.
Au final, on verra bien.
Voilà, au final, on verra bien.
Voilà, c'est bien dit. Bon, est-ce qu'ils ont investi dans du réseau à Villefranche? Tu me disais il y a 2 ans, c'est bien parce que là-bas on tourne pendant 4 mois, il n'y a pas de réseau téléphonique, il n'y a rien, ouais. On est peinard.
Non, bah on était toujours, franchement, là vraiment on n'a pas vraiment été dérangé, ça je peux te le confirmer. Sinon c'est vraiment pour le coup, ça c'est.
Un sanglier ou un cerf de temps en temps.
Voilà, sinon vraiment, non, on est vraiment, on est à l'aise. En plus là on était chez nous parce qu'on est revenu. Voilà, on est revenu à la maison, quoi, en quelque sorte. Donc, non, c'était super.
Bon, merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus nous reparler de Zone Blanche. La série continue, c'est ce soir, à partir de 21h10 sur France 2, juste après un si grand soleil. Alors, merci à tous les trois et à très vite. On se quitte avec la bande-annonce.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Pardon pour tout à l'heure. Je suis un peu tendu en ce moment.
Y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent. Ne vous inquiétez pas.
Et pourquoi tu l'as attaché?
Je voulais pas qu'il parte dans la nature. Tout ça, c'est lié, Nounours.
Ouais, bah j'espère que tu te plantes pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Rien, il veut pas me parler.
Pourquoi il veut pas parler?
Parce qu'il a peur.
Peur de quoi?
Peur de qui? T'as vu ses cicatrices? Il l'a vu. Nounours, il l'a vu.
Allez, dans un instant, Théo Bertrand, Gwendoline Hamon, Gilles Alma, Elodie Pou, Anne Romanoff, ils seront tous dans Chute, on écoute la télé. On revient dans 3 minutes, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé, double coup de cœur télé même cette semaine avec Théo Bertrand qui nous a rejoint. Salut Théo.
Ça va bien?
Ça va très bien, je suis très heureux de te retrouver évidemment, hein, te retrouve dans Plus belle la vie. Ça c'est tous les jours, hein, c'est à 20h20 sur France 3. Ouais. Mais cette semaine, double actualité pour toi puisqu'on te retrouve également dans Léo Mattei. Ça c'est jeudi dans une course-poursuite infernale.
C'est ça, en fait je me suis dit c'était pas assez tous les soirs, je me suis dit je vais en rajouter une. Ouais, c'est une course-poursuite, c'était génial à tourner, en plus c'était avec un vieux pote à moi qui m'avait doublé en doubleur cascade sur la guerre des boutons. À l'époque c'était un jeune cascadeur, maintenant il est confirmé. Et il m'appelle, il me dit oh, je vais te doubler, cascade et tout. Je savais même pas qu'il y avait une cascade dans la scène, je pensais que c'était une petite course poursuite. Et vraiment, on a vraiment fait une super scène, une super course poursuite. Le réal Jean-Luc Reichmann a même rajouté un truc parce que sur la série il est un peu décisionnaire aussi, parce qu'il a vu que j'étais chaud pour faire des cascades et tout, donc il a rajouté des trucs, on a bien couru. La pauvre Mathilde, elle a couru en talons. Mais c'était génial, hein, vraiment, ils m'ont laissé même faire des cascades moi. Après la chute, ils l'ont fait eux. Mais c'était vraiment cool. Les cascades comme ça, dès le matin, c'est super. C'est ce que j'aime.
On lui demandera d'ailleurs hein, comment elle a vécu ça, puisqu'on la recevra lundi prochain, ouais. Mathilde Lebrequier, dans Chut, on écoute la télé.
Elle devait avoir mal au talon. Elle m'a dit, putain, en plus, tu cours vite. Je suis désolé, Mathilde. Je dis, mais moi, des talons, peut-être que je courrais comme toi.
Bon, là, en tout cas, tu vas en faire courir aussi, hein, Mistral, puisque maintenant, tu es flic, raconte.
Et ouais.
Qui l'aurait cru?
Non, ben ouais. Mais même dans la vie, hein, tu vois, même ma mère, elle m'a appelé, elle me fait, mais non. Arrête, Théo. J'ai fait ouais, si, ça y est, nouvelle voie pour Kevin. Moi, quand j'étais plus jeune, alors dans ma vraie vie à moi, j'étais un peu attiré par la police. J'avais plus militaire. J'avais voulu faire un stage, puis j'avais laissé tomber. J'avais laissé tomber parce qu'en fait j'étais trop feignant, je crois. J'avais dit non, tous les matins 6h, c'est pas possible. Mais du coup voilà, grosse intrigue, et on n'arrête pas et c'est cool et le personnage grandit, évolue. Et c'est génial.
Et c'est ça qui est bien, c'est de le faire évoluer justement au fur et à mesure du temps dans cette famille Bellesta. Et là, bah, c'est plus le petit cancre de la famille. Bah, là, c'est un homme qui commence dans la vie active. Et c'est bien de vous voir évoluer comme ça au fur et à mesure des années.
Ouais, non, mais en plus, je trouve ça très intelligent quand ils m'en ont parlé. Je trouve ça très cool que vraiment, bah, le mec qui était un peu à l'école, il était pas très intéressé. Que vraiment, on lui mette un vrai truc dans les mains, quelque chose qui lui correspondait pas du tout. On l'aurait jamais vu là-dedans. Même moi, j'aurais jamais vu Kevin dans la police. Et faire que ce mec qui est un peu, des fois sous bolet, que là, il est obligé, il s'implique. Là, vraiment, on a joué. Alors, là, on est dans une intrigue où on rigole, on se marre parce qu'il le bizute un peu. C'est quand même Kevin, ça reste Kevin, hein, même
ouais, si. Non, ça, en fait, t'as commencé, hein. Oui. T'as commencé, parce que la première scène, il y a une quinzaine de jours, hein, avec Lola, où tu lui demandes de ramasser ce qu'elle a mis par terre, quand même. Celle-là, elle va garder, elle va rester. Hein.
Celle-là, elle est géniale. Voilà, donc là, on retrouve bien Kevin, qui fait un peu le malin dans son nouveau truc, puis il se fait vite rattraper par les autres. Encore un peu ce côté un peu bené qui le rattrape, un peu tête en l'air, mais voilà, je pense que cette intrigue, je pense qu'elle va plaire aux gens, parce que, en même temps, ça reste lui, mais en même temps, son qui prend de la maturité, on a tout fait pour bosser, pour que, voilà, quoi, on montre que, bah, il est en train de grandir aussi. Il apprend. Et ça, c'est cool. Et le flic, c'est un métier où t'apprends tous les jours, quoi. Où t'apprends tous les jours parce que, bah, il t'arrive des trucs qui t'arrivent pas forcément dans la vie et tu vois pas toujours des choses faciles. Donc, le mettre en flic direct, je trouvais ça vraiment bien pour lui prendre la maturité d'un coup.
Et puis, en plus, ça, tu vas faire beaucoup plus de tournage extérieur, du coup. Tu vas être moins cantonné à l'appartement des Bélesta.
Carrément, surtout que Plus Belle est en train de faire de plus en plus de tournage extérieur. Vraiment, on a un peu plus le temps, on développe beaucoup aussi la réalisation maintenant. Et ouais, le tournage extérieur, ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. L'appartement Bélesta, c'est bien. J'aime bien tourner en intérieur et tout, parce que ça fait un bon exercice. Tu as beaucoup de scènes, mais des scènes où tu as plus le temps, où tu peux courir, des scènes d'action, c'est quand même vachement intéressant aussi, et ça me manquait un peu.
Là, tu vas être servi. Des projets aussi, Théo, ça laisse le temps un petit peu justement de faire d'autres choses.
Toujours des projets. J'ai toujours une petite boîte de production. Je fais ma pub, ça s'appelle Studio Filmiste. Et on fait un peu des concerts, tout ça, donc c'est cool. Je suis à la fois un peu derrière la caméra, je fais de la régie, du montage. Je suis content et tout marche bien. Et après des projets, peut-être, qui sait, j'en dis pas plus. Tu vois, je reste peut-être. Je suis ouvert à toute proposition et voilà.
Bon, je suis sûr que tu reviendras dans l'été nous en parler.
Voilà, mais je vais faire Cascadeur, je crois. C'est mon avenir maintenant.
Je pense que t'es parti pour, en tout cas, j'en suis certain. Ouais. Bon, on te retrouve donc, je le disais, cette semaine, alors évidemment, du lundi au vendredi, à 20h20 sur France 3 dans Plus Belle la Vie. Et on te retrouve également donc à 21h10 sur TF1 jeudi dans Léo Mattei.
Carrément, carrément. Les gens vont en avoir marre à la fin de la semaine. Mais
non, ils t'aiment, les gens.
Le samedi, je ne serai pas là. Promis. Je vous promets.
Bon. Allez, on t'embrasse. Merci.
Oui, bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Léo Mattei. Si vous vous appelez Olivia, veuillez laisser votre message, merci.
Mauvaise nouvelle du matin, Léo, on a une ado dans le coma.
Ah non.
Bonjour à la Timone.
Ok, j'ai rien.
Bonjour, vous vouliez me voir.
Overdose ?
Cocaïne. Malheureusement, on reçoit de plus en plus de jeunes en ce moment.
Surtout à cette période de l'année, je suppose.
Période d'examen, grand lycée, grande pression.
Égale la drogue pour tenir le coup ?
Bon, je pense plutôt qu'elle a pris de la drogue pour oublier la douleur. Il l'a pas raté, celui qui l'a tabassé.
Les coups sont récents ?
Je dirais que ça date d'hier. Excusez-moi, je retourne voir les parents.
Merci, docteur.
Allez, coup de cœur télé, évidemment, cette semaine consacrée à Cassandre, hein, qui sera diffusée samedi sur France 3. C'est le dernier épisode inédit. Et quel succès et quel plaisir d'avoir son héroïne avec nous. C'est Gwendoline Hamon qui nous rejoint. Bonjour, Gwendoline.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Plus de 4 millions de téléspectateurs. Le succès ne se dément pas. C'est un Non, mais c'est un carton absolu.
Ah, mais c'est un carton absolu, c'est une joie immense, immense.
Comment on réagit aux premières audiences de la première saison et qu'on voit les saisons, justement, évoluer, se renouveler, grâce aux téléspectateurs comme ça?
Je sais pas, vous savez, moi, je suis pas très chiffre et j'étais la première surprise. Pas que j'imaginais qu'on ferait un bide atroce, mais je ne m'attendais pas à une surprise aussi sublime. Je pense que peut-être qu'on fait bien notre travail et que les gens se sont attachés aux personnages au pluriel, à l'équipe, et puis que voilà, ils passent un super moment.
On y retrouve un joli casting, Alexandre Varga et plein d'autres qui sont autour de Cassandre, évidemment. Pour ceux qui n'auraient jamais vu la série aujourd'hui, comment pourrait la définir Cassandre et qui est-elle ?
Cassandre, c'est une femme d'aujourd'hui. C'est une anti-héroïne. C'est une femme qui est pleine de paradoxes, comme toutes les grandes femmes, extrêmement forte et très sensible aussi. Alors elle assure dans son boulot, elle n'a pas le choix, elle est commissaire de police dans un bled qui n'est pas le sien, où on ne l'attendait pas. C'est une femme en plus et elle doit maintenir son autorité. Elle aime son travail immensément. Elle est dans l'empathie avec les gens et dans la justesse, je pense. Et puis de l'autre côté, c'est une femme seule, qui n'a pas d'histoire d'amour, qui a des regrets, des incertitudes, des ratages, un fils avec qui ça n'a pas toujours été et qui a donc des moments de solitude, de perdition.
De doute.
De doute, bien sûr.
Alors, ce dernier épisode qu'on va voir, l'enquête fil rouge de cet épisode.
L'enquête fil rouge, c'est la drogue dans la banlieue d'Annecy. Et c'est l'envie d'une partie des habitants d'essayer de gérer le problème sans la police parce qu'ils se sentent abandonnés. Il est tourné comme un western, cet épisode. C'est un épisode très urbain qui a pour fil la drogue et comment les gens ont envie de se venger eux-mêmes sans l'aide de la police parce qu'ils se sentent abandonnés. Donc Cassandre va débarquer là-dedans.
Il y a des sujets plus compliqués que d'autres à traiter ou est-ce que la production s'interdit aussi peut-être des sujets ou au contraire s'en autorise pour éveiller les consciences?
Je pense que la production ne s'interdit rien, la chaîne non plus, mais compte tenu du fait que nous faisons du polar familial et que notre envie de pouvoir rassembler, nous traiterons les sujets avec plus de douceur qu'une chaîne comme Canal+, parce que le public n'a pas envie de voir un égorgement qui dure 30 secondes avec des giclades de sang. Ça suffit de voir l'égorgement et on coupe. Donc oui, on a une façon de... Mais c'est normal. Si on veut que des jeunes enfants et des personnes âgées puissent regarder un programme... De toute façon, le but n'est pas d'être dans la violence. Le but, comme vous le dites, est d'éveiller les consciences.
Une série comme ça, tournée hors de Paris, ça fait du bien, non? De prendre le grand air et de pouvoir s'évader comme ça 3-4 mois par an sur une série comme Cassandre, c'est plus agréable?
Ah, moi, j'adore ça. J'ai quand même un petit problème, c'est que j'ai un fils de 14 ans et demi qui fait régulièrement la gueule, même s'il comprend qu'il a une maman libre qui fait son métier et qu'il en est fier. Non, j'adore ça. Ça fait un bien fou. On tourne dans des endroits sublimes. C'est probablement plus difficile par moment parce que les scènes d'action, vous les voyez 2 secondes, mais nous, on les tourne 5 heures de suite.
Oui, parce que c'est physique, il y a certaines scènes physiques.
Par moment, c'est très, très physique. Mais c'est formidable. C'est une chance folle. Et puis, c'est vrai que pour le spectateur, il voit la même chose que nous. Les paysages, ça donne de l'air, ça donne des respirations.
Il y a une petite quinzaine de jours, vous étiez au Festival de Luchon en tant que jury de fiction. Comment vous avez trouvé justement ce panel varié de fiction que vous avez pu voir au festival?
Formidable. Je trouve que la télé grandit énormément. Je pense que ça n'est que le début. Il y a pas mal de films que j'appellerais à l'anglaise. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une évolution avec plus de choix pour les gens. C'est des fictions de grande qualité. On peut être fier en France. On avance bien.
Beaucoup la trouvent plus audacieuse même qu'au cinéma aujourd'hui.
Et oui, mais parce que je pense que ce sont des histoires d'argent, tout ça. L'économie est difficile et donc les producteurs se lancent plus en majorité dans des comédies qui quelquefois sont un petit peu pas toujours réussies. Pourtant la télé a moins d'argent, moins de temps pour tourner, mais c'est normal. Elle est obligée de faire preuve de plus d'imagination et certaines fois elle le réussit.
Cassandre, dernier épisode inédit de la saison, ne le ratez pas. Le tournage de la saison suivante est déjà sur les rangs.
Eh bien figurez-vous que on commence là dans quelques jours.
Eh bien voilà, c'est parti pour 3 nouveaux épisodes cette année ou 4?
4.
Et bien voilà, ça, on va pas bouder notre plaisir. Et puis ça sera certainement encore un des cartons début 2020, on n'en doute pas. Alors voilà, on vous espère. Allez, on va frôler 5 millions, là, je suis sûr, samedi.
Écoutez, là déjà avec les replays, on est à 5 millions. Donc bah, écoutez, si en plus on fait 5 millions avant les replays, là c'est Noël, Versailles, la Saint-Glinglin tout en même temps. Là.
Merci beaucoup Gwendoline. On se quitte tout de suite avec un extrait de Cassandre dans ses œuvres.
Qu'est-ce qu'elle a sur elle?
Pas de téléphone.
Un trousseau de clés, 10 euros, carte de bus, carte bleue, pièce d'identité, Manon Favre, née le 16 mai 96 à Annecy.
22 ans. Ils ont dit quoi les secours?
Impossible de la réanimer, d'après eux c'est une overdose.
Sympa comme endroit pour venir se faire un shoot.
Aucune trace de piqûre à part celle du bras.
J'ai pas trouvé de seringue.
C'est quoi ça, des brûlures?
Ah, ça ressemble plutôt à des traces de choker électrique ça, genre taser de contact.
Ils ont dit quoi, les randonneurs qui ont secouru?
Ils ont vu personne d'autre, en tout cas. Et d'après eux, elle remontait le chemin.
Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, on va commencer évidemment notre spécial escale d'humour. C'est toute la semaine, hein, vous le savez, à Royan depuis vendredi. Eh bien, c'est Andrew Manoff qui a ouvert ce festival. Et demain, eh bien justement, c'est Gilles Alma qui nous rejoindra à la grande salle de Jean Gabin à Royan pour escale d'humour. Et puis le 1er mars également, hein, rendez-vous à la Citadelle du Château de Léron. Si vous n'avez pas réussi à avoir vos places, justement, demain, c'est le moment ou jamais. Et Gilles est justement avec nous. Bonjour Gilles.
Eh ben salut.
Je suis très heureux de te retrouver pour un spectacle 200% naturel. C'est ce que tu nous promets pour demain à Royan.
Exactement. 200. Écoute, 200. Ça, j'avais fait 100% naturel. Je me suis dit, je vais en faire un deuxième. Je dis, tac, 200% naturel. Marketingment parlant, c'est pas con, tu vois. Donc, non, voilà, c'est du naturel. C'est bon, si les gens me connaissent un peu, voilà, je donne naturellement les choses sur scène. Voilà, je suis comme à la maison. Et la petite note en plus pour ce 200% naturel, c'est mon petit fil conducteur, c'est l'écologie. Voilà, je dis que j'ai fait un voyage longtemps en 2051 et j'ai pas vu des trucs de ouf extraordinaires. Donc voilà, j'en parle avec beaucoup d'humour toujours. Hein. C'est important de pas faire trop chier les gens avec l'écologie. Donc c'est difficile de faire rire les gens avec l'écologie. J'y arrive. Et voilà, il y a pas que ça, mais voilà, c'est de la bonne déconne comme d'habitude.
C'est un peu la suite du coup de 100% naturel.
Ouais, 100% naturel, c'était ma vie, le quotidien, et voilà, dans 200% naturel, il reste des choses de 100% naturel, mais j'ai voulu faire un fil conducteur avec de l'écologie, cette histoire de 2051, et toujours, par contre, toujours l'amour du public et toujours la simplicité, voilà.
Tu t'éclates toujours autant sur scène, le public qui vient encore te voir, je suis sûr que tous les jours, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on te demande, alors nos chers voisins, quand c'est que ça revient, est-ce qu'on aura une chance de vous revoir sur un téléfilm, un prime time? Bientôt peut-être.
Eh ben non, nos chers voisins, c'est vraiment terminé. À chaque fois, c'est vrai, les gens ont l'impression que c'est pas vraiment terminé ou parce qu'ils nous voient toujours un peu à la télé, de temps en temps ils font des rediffs et tout. Mais non, c'est vraiment c'est fini, terminé. Voilà, moi j'ai eu la chance de tourner. Je tourne notamment pour France 3. Là, j'ai un téléfilm que je viens de terminer au mois de décembre pour France 3. J'ai fait deux séries pour France 2. Enfin voilà, je tourne beaucoup. Mais nos chers voisins, c'est vraiment fini. Désolé, hein, les gens.
Ça a été un tournant pour toi, mine de rien, cette série.
Bah ouais, je me souviens quand t'étais venu là tout au départ de la série au festival de La Rochelle, connu au bataillon, Gilles Alma. Bah écoute, oui, bien sûr, quand t'as 6 millions de personnes qui te regardent en quotidienne, ça aide hein, pour la suite des événements. Donc oui, c'était un tournant, mais ce métier c'est pas un 100 mètres, hein, c'est une course de fond, donc faut encore travailler.
Sur la longueur, effectivement. Dans ton premier spectacle, tu en parlais justement des voisins. Tu avais toujours un petit mot tendre pour tous tes compatriotes. Et Isabelle, d'ailleurs, avec qui tu partageais l'affiche, qui fait aussi du One One Show, que je vous conseille d'aller voir aussi, Isabelle Vitari.
Ouais, écoute, j'en parle toujours de nos chers voisins, parce que c'est vrai que les gens viennent encore pour ça, que je suis pas encore identifié en humoriste, je suis plutôt identifié en comédien plutôt drôle. Donc je parle de nos chers voisins, effectivement, ouais. Je parle de nos chers voisins vite fait, mais après je passe très très vite sur autre chose, parce que bon, voilà, c'est aussi le passé, moi je regarde plutôt l'avenir, hein, j'aime bien, voilà, imaginer notamment ce qui va se passer en 2051. Donc voilà, mais ouais, c'est toujours, c'est un beau souvenir, nos chers voisins.
Qu'est-ce que tu aimerais jouer comme rôle? Qu'est-ce qui te plairait? Est-ce que tu aimerais jouer le rôle d'un méchant, des rôles qu'on t'a jamais proposés encore, justement?
Bah écoute, je te dis, j'ai terminé un téléfilm pour France 3 là, qu'on a tourné à Provins, qui sera diffusé courant 2019.
Ça s'appelle?
Alors le titre a changé. Alors il y aura Provins dedans. C'est pas Meurtre à Provins, tu sais, il y a toute une série de meurtres sur France 3. Ça sera un truc avec Provins. Bon voilà, quand vous verrez Provins, vous direz, il y aura Gilles Alma dedans. Et écoute, là ils m'ont filé un rôle, j'ai trouvé ça intéressant. Tu tournes aux côtés de Thierry Neuvik et de Anne Caillon, et je fais le nouveau mec de Anne Caillon, et Thierry Neuvik est l'ancien. Et là ils m'ont filé le rôle d'un flic scientifique, donc avec lunettes et tout, plutôt cérébral et plutôt un peu chiant. Donc voilà, c'est cool ça.
Ça va changer.
Ouais, ça change du beauf qui arrête pas de déconner et couvre sa gueule. Donc voilà.
Et voilà pourquoi, si vous avez pas vu Anne Caillon dans Demain nous appartient à l'automne, voilà l'explication. Maintenant c'est tout avec Gilles. Alors ce spectacle, explique-nous comment tu l'as un peu articulé, ce 200% naturel. Est-ce que tu l'as écrit toi-même? Tu t'es fait entourer? T'as collaboré avec qui? Raconte-nous.
C'est toujours la même histoire. C'est une histoire de copains aussi. Ça, c'est une équipe. J'écris bien entendu, mais j'ai des co-auteurs qui sont extraordinaires. Frédéric Journet, Christophe Delors, Ricky, Arnaud Gidouin qui vient faire une petite patouille de temps en temps, Manu Desarriba un petit peu de tatouille aussi comme ça, voilà. Mais bon, j'ai une équipe bien resserrée. Je cite tout le monde parce que même Manu, qui n'a plus beaucoup de textes dans mon spectacle, a quand même participé. Voilà, c'est une équipe. Voilà, je lance des sujets, ils m'envoient des trucs, et puis moi je retravaille derrière. J'essaye aussi. Ça fait partie aussi de l'écriture, d'essayer au public pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et je m'éclate. Voilà, je m'éclate, mais vraiment, c'est vraiment un kiff quand on me pose des questions de savoir qu'est-ce que je préfère. C'est la scène sans hésiter, parce qu'il y a les gens et c'est vraiment un bonheur.
Ouais, rien à voir avec, effectivement, quand t'es devant la caméra dans un téléfilm, t'as pas le retour immédiat du public.
Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand t'es avec ta partenaire, les techniciens, s'ils rigolent, la prise est foutue. Donc voilà, il n'y a pas d'échange du tout. T'échanges avec ta partenaire le jeu. Mais voilà, là j'ai l'échange avec le public, je suis seul avec eux. Et voilà, il y a beaucoup j'ai rajouté de l'improvisation et de l'interaction avec le public. Voilà, je fais participer le public plus qu'avant encore.
Bon, toutes les dates de ta tournée, évidemment, on peut les trouver sur ton site, gilalma.com, vous trouverez tout, voilà, puisque tu es en tournée pendant tout ce printemps. Et puis on te retrouve donc demain, ça sera à la salle Jean Gabin dans le cadre du festival Escale d'Humour. On te retrouvera également dans le cadre du festival Rire au Léron, ça sera sur l'île d'Oléron, ça, le 1er mars. Et puis toutes les dates, évidemment, de tes passages en Nouvelle-Aquitaine sur le site gilalma.com. Merci à toi.
Merci les amis, bisous.
Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais si je devais comparer mon kiki, je sais pas quoi, tiens, une voiture, par exemple, ben voilà, voilà. On pourrait dire que j'ai une Twingo. C'est pas grand, une Twingo, mais si tu réfléchis bien, disons, une Twingo, ça démarre au quart de tour. Ça tombe jamais en panne. C'est incroyable, une Twingo, on connaît. Qu'est-ce que t'as comme voiture, si c'est pas indiscret? Une Volvo? Mais laquelle? Comment? V50. C'est gros, ça, dis donc, mon salaud, dis donc. Félicitations, dis donc. Passe pas partout, quand même, la Volvo, hein.
Allez, après Gilles Alma, on continue à passer en revue, évidemment, eh bien, toutes nos têtes d'affiche de ce festival Escale d'Humour sur la côte royanaise, à Royan précisément, avec Elodie Pou qui sera à l'affiche jeudi. Elodie, merci d'être avec nous.
Merci d'être avec moi.
Ça fait plaisir de t'avoir. Alors, nous allons découvrir ce syndrome du Playmobil qui nous attend jeudi. Tu tournes à travers toute la France avec ce spectacle d'hommage aussi, avec tes deux comparses. On te retrouvera pour ton premier Casino de Paris. Ça sera le 15 avril à Paris. Tout roule.
Bah, tout va bien. On ne peut que souhaiter que ça continue.
Comment a commencé l'histoire d'Elodie Pou? Raconte-nous comment tout a commencé pour toi.
Bah, quand un papa et une maman s'aiment très fort, ils se font des bisous.
Alors, je parlais du côté professionnel, bien sûr, mais si tu veux y aller, tu peux y aller.
Et ben, j'ai commencé par prendre des cours de art du conte. Voilà, tous les jeudis soirs, apprendre à écrire une histoire et à la raconter, apprendre à s'exprimer sur une scène. Et ils étaient un petit peu rigolos, mes contes. Alors, on m'a conseillé le café théâtre. J'ai essayé le café théâtre pendant un an. Après, je me suis inscrite à plein de scènes ouvertes, de concours, de jeunes humoristes, tout ça. J'ai commencé à en gagner un petit peu. Et deux ans plus tard, j'avais un spectacle et voilà, j'ai commencé à le jouer. Et un an plus tard, j'ai démissionné de mes deux emplois d'animatrice périscolaire en maternelle et centre de loisirs et je me suis lancée sur la route de France avec mon spectacle.
Comment tu expliques aujourd'hui? T'as quasiment une tournée complète déjà, avec des dates même 6 mois d'avance complets. Comment t'expliques ça? Comment tu expliques cet amour du public pour toi qui a été quand même rapide?
Je paye les gens en fait. 6 mois.
Ah, voilà l'explication, je me disais.
J'envoie des petites enveloppes aux gens de la région avec un gilet jaune et une caisse de champagne s'ils acceptent de venir à mon spectacle. Et c'est comme ça que je remplis les salles.
Ça t'a coûté cher à Orient?
C'est une catastrophe. C'est vraiment, on est ruinés. Mais on continue parce que ça marche.
En tout cas, c'est une belle histoire. Alors, pour ceux qui ne t'ont jamais vu encore sur scène, raconte-nous alors ce syndrome. Qu'est-ce qu'on va voir un petit peu sur scène jeudi, sans déflorer évidemment.
Sans déflorer.
Je le dis bien. Hein.
On va voir quelqu'un qui va venir raconter ses 12 années d'expérience en école maternelle. Voilà, ça tourne beaucoup autour de ça. J'aborde plein d'autres choses aussi, comme la vie de tournée, pourquoi moi j'ai pas d'enfant, etc. Et on va se marrer surtout. On va oublier tous ces soucis pendant 1h30 et c'est ça qui est cool.
Alors tu tournes beaucoup, est-ce que tu as encore des envies, je suppose, en tant qu'humoriste tu fais beaucoup de scènes, mais est-ce que le cinéma, la télévision sont aussi des domaines qui t'intéressent, t'aimerais?
J'ai envie de tout faire en fait, moi j'ai fait un petit casting voix pour un doublage dessin animé là dernièrement, donc je croise les doigts que ça marche, parce que ça c'est vraiment un truc que j'ai toujours eu envie de faire. Voilà, j'aide quelques autres humoristes avec leur spectacle aussi, je co-écris le spectacle de Michel Frenat, notre metteur en scène qui a son propre spectacle qui s'appelle Amour, Humour et Rock'n'Roll. Je suis chroniqueuse à Rire et Chanson et à Paris Première, donc voilà, mon agenda est bien chargé.
Alors les personnes de la côte royanaise hein, qui sont fans de toi, ils ont été gâtés puisqu'on t'a retrouvé le 31 janvier dernier au relais de la Côte de Beauté dans ton spectacle Dommage. Donc ça continue aussi à tourner, tu fais les deux en parallèle hein.
Oui, c'est ça. Dommage, c'est ma récréation. Voilà, je joue beaucoup mon spectacle et de temps en temps, c'est vrai que c'est cool de retrouver les deux copines, voir le troisième avec Michel Frenat qui vient avec nous de temps en temps et puis les régisseurs aussi qui nous accompagnent et ça fait une petite récré quoi. Ça fait du bien d'être plusieurs, d'aller à plusieurs dans un endroit, de jouer à plusieurs, de s'éclater. En plus, cette pièce nous éclate vraiment dans tous les sens du terme.
Il y a une énergie. Si vous l'accueillir la pièce, par contre, ne vous attendez pas à retrouver votre plateau nickel. Hein.
Ouais. Si on nettoie derrière. mais ouais, c'est, j'aime beaucoup.
C'est un peu un hommage au vaudeville, on rigole beaucoup, ça part très, de façon très théâtrale, et puis après voilà, ça part un peu en sucette, c'est ça qui est drôle aussi, et vous mettez une énergie toutes les trois incroyable pendant 1h30.
Oui, c'est une sorte d'hommage au vaudeville avec des dommages collatéraux, et c'est vrai que c'est, on se rendait pas compte à quel point elle était physique avant de la jouer à Avignon, où là on l'a jouée tous les soirs pendant Avignon, et là on s'est rendu compte qu'elle était vraiment, on s'envoie des photos de nos bleus après les scènes, parce qu'on se bat bien, et ouais, c'est notre petit sport quotidien.
Alors jugez plutôt, hein, j'ai quelques dates à vous présenter. Alors évidemment, tu es à l'Apollo Théâtre, c'est tous les mardis. Ça, c'est jusqu'au 30 avril,
avec
c'est ça?
Avec Dommage.
Avec Dommage et les copines, justement. Ça, c'est la récréation. On te retrouvera le 1er mars à Chinon, en Touraine, pour Dommage également. Et on te retrouvera dans notre région aussi le 7 mars à La Une, à Poitiers, à Saint-Benoît. Précisément, le 12 avril au Printemps du Rire, à Toulouse aussi. On aura le plaisir de te voir sur scène. Un petit tour en Vendée le 10 mai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et le 16 novembre, en fin d'année, au Sable de l'Aune. Et alors dis-moi carrément le 8 février 2020, ça sera au Fémina de Bordeaux, grosse date, très beau théâtre aussi qui t'attend dans notre région.
Oui, c'est vraiment une grosse salle. Et comme dit mon producteur, c'est bien de remplir des grosses salles, mais il faut savoir se rappeler de leurs prénoms. Voilà, c'est un humour de producteur.
Théâtre Fémina, tu vas t'en rappeler Fémina, tu vas voir. C'est ça. Alors le 15 avril aussi, le Casino de Paris, alors ça c'est une première pour toi. Est-ce qu'il y a des scènes mythiques comme ça qui te font plus peur que d'autres?
C'est pas peur, c'est vraiment des envies de le faire, genre l'Olympia, tu vois, avoir son nom, avoir les lettres de son nom sur la façade. L'Olympia, j'aimerais bien le point virgule aussi. Voilà, il y a des lieux qu'on connaît même si on n'a jamais foutu les pieds dans un théâtre et qu'on n'en fait pas. Voilà, on connaît le point virgule, on connaît ces lieux-là, et donc ouais, ce serait vraiment cool d'aller jouer. Mais je suis très 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 contente de faire le Casino de Paris, c'est très adrénalinisant.
Et pour revenir sur Royan, évidemment, Escale d'Humour. Alors ce soir, c'est les jumeaux. Voilà, c'est les jumeaux ce soir qui sont sur la scène d'Escale d'Humour. Et jeudi, t'es là.
Ah ouais, ouais, c'est Royan, c'est vraiment, c'est le deuxième rêve de chaque humoriste en France. Donc je suis vraiment contente d'y aller.
Voilà, il y a le Printemps du Rire et il y a Escale d'Humour.
Voilà.
C'est ça. Bon, écoute, tu sais pas, on va écouter un petit extrait de ton spectacle pour se quitter. Et puis, je vous rappelle donc très vite les dates. 1er mars à Chinon, le 7 à Poitiers, le 12 avril, ça sera au Printemps du Rire à Toulouse, le 10 mai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et puis Sable d'Olonne, ça sera le 16 novembre et le 8 février 2020 au Fémina de Bordeaux. Merci Elodie.
Avec plaisir.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Moi, je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. Alors j'ai dit bon, l'humour, pourquoi pas. J'aime les petits-enfants. Mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos, hein.
Franz, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon gros colon. Eh bien, ça veut dire que tu me fais chier. Avant, ce théâtre appartenait à nos parents, mais maintenant...
Ils sont morts.
Oh, ils sont trop cuits, les petits pois.
C'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard! Ils regardaient par la fenêtre avec leur petite bouille comme ça.
C'est pas juste! Il est roi! Mais pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Tous mes enfants, ils sont hyperactifs.
Dans un instant, on continue notre spécial Escale d'Humour avec Anne Romanoff qui nous rejoint dans Chute, on écoute la télé. Alors à tout de suite!
Bouge pas! Chute, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite! Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Chut, on écoute la télé. Spécial festival.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé. On va continuer à parler hein, d'Escale d'Humour, bien évidemment, avec Anne Romanoff qui nous a rejoint. Chose promise, chose due. Anne Romanoff, bonjour.
Bonsoir, plutôt.
Merci d'être avec nous, Anne. Je suis très heureux de vous avoir. Est-ce que tout va bien?
Tout va très bien.
Eh bien, en tout cas, c'est ce que le spectacle a donné ce week-end à Royan. C'était hallucinant. Plus de 600 personnes ont pu voir ce spectacle, tout va bien. Avec en toile de fond quand même, le divorce. C'est un peu cette toile de fond hein, qu'on a ressenti.
Toile de fond, c'est plutôt la vie quotidienne, enfin l'époque, 2019 en fait. Je parle vraiment beaucoup de l'époque. Qu'est-ce qui change dans l'époque? Qu'est-ce qui est nouveau? Tout ça quoi. Une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être, de se comporter, de penser. C'est ça qui m'intéresse.
Alors vous retrouvez Anne que vous aimez évidemment, hein, avec les politiques, les nouvelles technologies, tout y passe aussi.
Bah, c'est le but, j'aime bien dans un spectacle que ce soit très varié, donc c'est vrai que j'aborde des thèmes, il y a une voyante, je parle du politiquement correct, je parle des nouvelles technologies, je parle des femmes de 50 ans, je parle de beaucoup de choses, c'est assez varié, quoi. Je pense que c'est ça qui plaît aux gens aussi.
Alors, il y a des moments aussi dans le spectacle qui sont un peu plus émouvants aussi. Je parle évidemment du viol sur les femmes. Vous faites une allusion à un moment donné qui a touché beaucoup de monde dans la salle.
Je parle en effet du mouvement MeToo et après c'était compliqué d'en parler. Moi je suis féministe, mais d'en parler en étant ennuyeux, donc j'ai pris le biais d'une fable et je réussis quand même à ce que les gens rient. Alors ils rient pas autant que dans les sketchs du reste du spectacle, mais ils rient au moins 4-5 fois dans le sketch, quoi.
Comment l'avez construit ce spectacle? Tout va bien, c'est vous qui avez tout écrit?
Oui, j'ai tout écrit. Je travaille avec un metteur en scène qui s'appelle Gilles Galliot. On travaille ensemble, donc parfois il me donne des idées dans l'écriture, mais c'est moi qui écris tout à 95%. Et c'est un spectacle, c'est assez long en fait. Hein. J'ai commencé il y a un an à Aix-en-Provence dans un petit café-théâtre, et puis j'ai rodé. On teste les sketchs, on regarde ce qui marche, ce qui marche pas, on réécrit. C'est un long travail pour arriver à ce que ce soit efficace comme ça, quoi.
Combien de temps, ouais, justement, entre le rodage, l'écriture? C'est 2 ans de préparation à un spectacle?
Non, pas 2 ans, mais une bonne année, ouais, facile.
C'est quoi la plus belle récompense? Une fois que il est rodé, qu'on le joue les premières fois sur scène, comme ça?
Je crois que c'est les premières fois, en effet, où quand on voit que ça marche, en fait, on se dit, waouh, on est content. Par contre, je considère quelque chose érodé quand je l'ai joué plusieurs fois, parce que une fois, des fois, ça peut marcher. Après, on le refait la fois d'après, ça marche plus ou moins bien, et donc c'est un long travail, quand même.
Alors ce spectacle, Tout va bien, va tourner un petit peu partout, hein, en Nouvelle-Aquitaine et juste aux frontières, hein, de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on vous retrouvera, Anne, le 15 mars à Poitiers. On vous retrouvera également le 10 mai au Sable d'Olonne, le 6 juin prochain à Nantes, le 14 juin à Niort, à La Clameur, le 21 juin à Bordeaux, le 28 juin de nouveau à Poitiers, puisque la première date est complète, le 30 novembre à La Rochelle en Charente-Maritime et le 23 avril 2020 à Agen. Ça fait peur de voir un planning rempli d'avance comme ça?
Non, ça fait plaisir. C'est bien d'avoir du travail. Mais après, il faut assurer toutes les dates. Mais je pense que plus ça va, plus je suis dans le plaisir. Et c'est l'avantage d'avoir un certain nombre d'années de métier. C'est que, alors, je suis jamais sur scène les mains dans les poches, mais je suis moins stressée qu'avant, quoi.
Comment on fait pour arriver à concilier tout? La radio, les spectacles? Comment vous arrivez à tout faire? Vous arrivez à dormir encore?
C'est le problème. Souvent, ça empiète sur le sommeil, bien sûr. Mais après, je vais pas me plaindre. Il y a tellement d'artistes qui travaillent pas. J'ai la chance de faire ce que j'aime. Et c'est sûr que le rythme d'une émission de radio quotidienne d'une heure et demie, parce que je suis tous les jours à 11h sur Europe 1, c'est un peu lourd. C'est ça qui, dans mon emploi du temps, qui est le plus compliqué. C'est la radio, parce que c'est beaucoup de préparation, des interviews. Enfin, vous savez ce que c'est. Voilà. Donc ça, je crois pas que je vais continuer comme ça l'année prochaine, parce que sinon, on va me retrouver sur une civière. Et voilà. Et puis, mon plaisir est quand même la scène. Donc, j'aime bien la radio, mais je pense qu'un rythme hebdomadaire, ça me suffit, en fait, moi.
Il y a un truc qui m'étonne. Je me suis dit, pourquoi une chaîne de télé n'a jamais pensé à Anne Roumanoff pour être à la tête d'une série télé ou pour être tout simplement l'héroïne d'une série?
Alors là, j'ai un projet de film que j'espère réaliser cet été. Mais c'est vrai que la série télé, alors on m'a proposé des fois des participations, moi j'étais pas convaincue. Et après, il y a longtemps, j'avais fait une petite série sur comédie, j'avais fait des 26 minutes avec pas mal de comédiens, c'était pas mal d'ailleurs, ça s'appelait C'est la crise. Mais voilà, après, on m'avait proposé, non, je sais pas, ça m'a toujours fait un peu peur en fait, les séries télé. Mais c'est-à-dire quand on est venu vers moi, j'ai pas fait, ah oui, je fais, oui, pourquoi pas, j'ai pas été. Mais peut-être que ça viendra plus tard, enfin, je suis pas. Puis maintenant, en plus, il y a un vrai renouveau des séries télé, donc je trouve ça plus intéressant qu'avant, quoi.
Alors Anne, aussi, la fierté d'un artiste, c'est de partager souvent sur scène. Et Dieu sait que dans votre émission, que moi j'ai souvent écoutée, sur Europe, vous avez découvert beaucoup de jeunes talents. Quels sont ceux dont vous êtes les plus fiers aujourd'hui de leur carrière?
D'abord, j'ai pas découvert personne, c'est-à-dire que je crois pas qu'on découvre qui que ce soit. On peut donner un coup de main à un moment. Il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui s'en souviennent pas. C'est quoi?
Ça, c'est une autre histoire.
En général, il faut savoir que les gens ne s'en souviennent pas, donc il faut pas, voilà. Après, c'est marrant parce qu'il y a des fois des gens qu'on n'a pas tellement aidés et qui disent, oh, merci, tu m'as aidé. Je dis, ah bon? Des trucs. Et d'autres que j'ai l'impression d'avoir super aidé, qui te calculent même plus, mais bon, je sais pas. Je crois pas de toute façon qu'on aide qui que ce soit. Je pense que on peut parfois faire gagner un peu de temps à certaines personnes, mais j'ai pas la sensation d'avoir j'ai essayé d'être bienveillante avec les gens qui venaient vers moi, voilà, ce qui est déjà.
Alors ce spectacle, Tout va bien, il est assez interactif aussi, parce que là vous parlez des gilets jaunes, il y a des choses qui sont réécrites un petit peu au fur et à mesure aussi de l'actualité. C'est-à-dire que là, si on vient vous voir là et qu'on va vous revoir par exemple en avril 2020 à Agen, on n'aura pas forcément le même spectacle.
Ah ben non, en avril 2020, non. Mais si vous venez me voir en avril 2019, ça va être sensiblement le même. Après, c'est sûr que le sketch du bistrot évolue selon l'actualité, donc bien sûr. Ça, je peux pas. Il sera pas tout à fait pareil. Je le fais évoluer, bien sûr.
Mais c'est un spectacle, voilà, relativement évolutif. Et ça, c'est bien. Voilà, vous serez sûr d'avoir des surprises en allant voir Anne, c'est sûr. Merci d'avoir été avec nous. Tout va bien. C'est le spectacle qu'il ne faut pas rater. Et Anne, on peut vous souhaiter que bon courage. Il y a encore plus d'un an de tournée devant vous. Les dates partout qui sont quasiment complètes partout. Alors profitez-en. Et s'il y a des dates encore où il reste des places près de chez vous, dépêchez-vous. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous.
Alors d'après un sondage, 60% des Français trouvent que le bilan d'Emmanuel Macron est négatif et 30% préfèrent ne pas en parler. Non mais le pauvre, il a pas de chance depuis cet été. En juillet, il y a l'histoire Benalla. On a tellement parlé de Benalla en juillet, je crois que c'était la nouvelle danse de l'été. Non mais ça a fait toute une histoire parce que son garde du corps, il s'est déguisé en policier. En fait, on peut pas se déguiser en policier parce que t'as le droit de taper des manifestants uniquement si t'es policier. Parce que les CRS, ils reçoivent une formation en tapage. Ils savent où taper, que lui, il avait juste mis le brassard. Non, mais il y a une commission d'enquête, celui qui était au courant de rien, c'était Gérard Collomb. Il a dit « sa tête me dit vaguement quelque chose ». Ensuite, on lui a montré une photo d'Emmanuel Macron, il a dit « s'appellerait pas Emmanuel ».
Voilà, tout va bien, c'est le spectacle de Anne Roumanoff hein, que vous venez d'entendre un petit extrait. Merci Anne en tout cas d'avoir été avec nous et on enchaîne tout de suite avec le mot de la fin de ce festival avec Patrick Marengo, maire de Royan, qui est avec nous. Bonjour Patrick.
Bonjour. Écoutez, assister à un spectacle d'Anne Roumanoff au mois de février, par une journée ensoleillée, c'est quelque chose de magique en fin de journée. C'est un regard très intelligent, très subtil, très décalé sur l'actualité politique hein, et la situation nationale que nous traversons tous en ce moment. Mais un regard qui donne envie de rire, qui nous aide à mieux gérer ces situations et à mieux les comprendre d'une certaine manière. Et de voir toute une salle joyeuse, rieuse, accompagner l'artiste et de voir la relation qui s'établit entre une artiste qui est une professionnelle qui chaque année se renouvelle dans ses sketchs, etc.
Et elle a fait deux salles combles pendant le week-end en plus, il faut quand même le dire Anne. Hein.
Vous avez raison, mais elle ne peut que faire que salle comble, il n'y a pas de souci au regard de la qualité de son spectacle et puis au regard de l'acuité de son regard sur notre situation interne. Donc c'est un vrai plaisir, c'est une vraie joie que de l'accueillir. Je pense que tous les spectateurs ce soir ont partagé quelque chose d'un peu unique et ça fait un bien fou et Dieu sait qu'on en a besoin. Voilà.
Alors le programme est loin d'être fini hein, Patrick, on va s'amuser, on va rigoler un peu toute la semaine puisque ce soir justement c'est les jumeaux hein, qui seront à l'affiche de cette soirée et puis demain ça continuera avec Gilles Alma, mercredi Sébastien Marx, jeudi Élodie Pou, vendredi Elisabeth Buffet, samedi Bruno Salomon et ça fait du bien de rire en plein hiver à Royan et ça c'est bien d'avoir fait un festival justement comme ça.
Oui, je crois que ça initie bien la saison. Hein. La saison commence avec les ailes de saison relativement tôt, au mois de février. Je pense que nous avons besoin de rire, justement, et de partager ensemble des moments de joie, des moments où on se libère, où on se lâche. Hein. Savoir se lâcher malgré les difficultés et malgré le sérieux des missions à réaliser et à accomplir. Et c'est extrêmement important.
Le rendez-vous est pris, Escale d'Humour, vous pouvez voir, hein, toutes les infos sont sur la page Facebook, Escale d'Humour tout simplement. Il doit rester quelques places hein, pour Gilles Alma demain soir et pour Sébastien Max. Mercredi, Élodie Pou, c'est complet, Elisabeth Buffet, c'est complet, Bruno Salomon aussi. C'est un énorme succès, Escale d'Humour maintenant. Hein.
Oui, je voudrais rendre hommage à notre conseiller municipal Yannick Pavon, hein, qui est l'instigateur de ce festival. Je crois que il a la jeunesse qui va bien, l'humour qui va bien, et il a su créer une activité, une manifestation qui fait honneur à notre ville et puis qui rassemble des personnes de tout le territoire, des spectateurs qui viennent de très loin souvent. Et ça, c'est extrêmement important. Rassembler, vivre ensemble des moments ludiques, puis repartir pour vivre autre chose, quoi. C'est ça qui est important. Mais repartir plus fort, joyeux, pour faire avancer la ville, la cité, le territoire, c'est extrêmement important.
Eh bien, le rendez-vous est pris, en tout cas, Escale d'Humour, toute la semaine à Royan. Merci beaucoup Patrick Marengo, maire de Royan, d'avoir été avec nous. Je vous dis à très vite.
Ok, à très vite.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Eh bien, ce sera une spéciale du film Jusqu'ici, tout va bien avec Mohamed Hamidi, Anne-Elisabeth Blateau et Sabrina Ouazani qui seront nos invités. On recevra aussi Sébastien Charby, producteur de Plus belle la vie et on essaiera de lui gratter quelques scoops. Patrick Parou, alias Christian Parisot dans Camping Paradis sera avec nous. Et le couple Jérémy Benster et Mel Mieton d'Un si grand soleil seront avec nous. Alors, je n'attends plus que vous.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine sur Bergerac 95 tous les matins à 11h40 pour Chut, on écoute la télé, la quotidienne. En attendant, je vous retrouve également pour la grande hebdo dès lundi prochain à 20h. Alors surtout, ne ratez pas le rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle soirée à l'écoute de nos programmes.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chut, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.